spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant.
Bonjour, auditrices et auditeurs fidèles des Radios Libres. Vous êtes en direct sur Radio Méga à Valence et en rediffusion sur Radio Diwa Di et sa région et Radio La Web Radio basée à Dieulefi. Atomic Mac, c'est une émission anti-nucléaire mensuelle réalisée par l'association Arrêt du nucléaire Drôme Ardèche, composée de Jean-Pierre au choix musical, Dominique et Gérard aux interviews, Kim et Georges aux rubriques. Nos invités sont aujourd'hui Kurumi Sugita et Dominique Malvaux, rencontrés à Montélimar après la projection du film « Retombée silencieuse » d'Ito Hideaki, réalisateur japonais indépendant. Et pour commencer, comme d'habitude, le billet de Georges sur la situation à Fukushima.
Oui, bonjour auditrices et auditeurs. Au programme de ce mois, le mécontentement d'une partie de la population japonaise. Tout d'abord face à la remise en route de la plus grande centrale du monde à Kashiwazaki Kariba, Hideo Hanazumi, le gouverneur de la préfecture de Niigata, centre-ouest où se trouve cette centrale, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il approuverait la reprise des activités une fois reçu l'aval final du régulateur nucléaire du pays, d'après Le Monde du 21 novembre.
Pourtant, d'après RTBF Hebdo du 20 novembre, ce redémarrage n'est pas comme les autres.
Oui, RTBF, c'est la radio-télévision belge. Effectivement, 14 réacteurs gérés par d'autres compagnies ont déjà repris du service dans l'ouest et le sud du pays depuis la mise en place de nouvelles normes de sécurité strictes. Mais le cas de Kashiwazaki Kariba est unique. Il signerait le tout premier redémarrage d'une installation nucléaire sous l'égide de TEPCO, l'opérateur de la centrale, depuis la catastrophe de 2011. Conscient de la méfiance, TEPCO a transformé le site en forteresse. En clair, on a construit une digue de 15 mètres face à la mer du Japon et surélevé des systèmes de secours pour parer au tsunami.
Cela a-t-il calmé la méfiance ?
Non. Selon un sondage commandité par la préfecture, près de 70% des habitants de la région se disent inquiets de voir TEPCO aux commandes. Et pour cause. Les opposants, appuyés par Greenpeace, rappellent que l'activité sismique ne faiblit pas, citant le tremblement de terre du Nouvel An 2024 dans la péninsule de Noto comme un avertissement. Pour eux, remplacer une dépendance au gaz par une dépendance à l'uranium importé ne résout pas l'équation de l'autonomie et accroît le risque d'accident majeur. Je conseille une vidéo à sous-titrer d'une manif à Nagata qui est disponible à ce lien https://www.youtube.com/watch:VLHCDLYYYCGO.
Autre sujet de mécontentement, de la terre radioactive pour planter des fleurs ?
Eh oui, selon un article de la NHK Radio TV japonaise du 14 septembre 2025, relayé par Pierre Fété sur Fukushima Blog, on réutilise la terre décontaminée de Fukushima dans les ministères centraux de Kasumigaseki, au centre de Tokyo, dans les parterres de fleurs.
Quelle drôle d'histoire!
Effectivement, après l'accident nucléaire, les grandes quantités de terre retirées lors de la décontamination ont été placées dans des installations de stockage intermédiaires. Or, la loi stipule qu'elles doivent être définitivement éliminées en dehors de la préfecture de Fukushima d'ici 2045. Alors, pour réduire la quantité, le gouvernement a décidé de réutiliser la terre à faible concentration en substances radioactives pour le remblayage de chantiers publics dans tout le pays. Sont ainsi concernés, entre autres, l'enceinte de la résidence du Premier ministre et la majorité des ministères. À savoir qu'il y a une couche de 20 cm de terre normale qui sera ensuite ajoutée par-dessus afin d'empêcher la dispersion.
On peut se demander pourquoi cette couche de 20 cm, si la concentration en césium est faible.
Et oui, c'est la grande question. Cette norme, fixée par le ministère de l'Environnement, fait suite à la loi spéciale stipulant que les sols contaminés à moins de 8000 becquerels par kilo doivent être utilisés sous une gestion appropriée. Alors là, il faut comprendre, la gestion, c'est-à-dire remblai, remblayage et matériaux de remplissage. Ajoutons que le ministère de l'Environnement a ordonné à l'entreprise de procéder en tenue de travail ordinaire, sans tenir compte des conséquences possibles pour les travailleurs, donc de tenue de travail ordinaire, sans gants ni masque.
Mais l'AIEA a-t-elle autorisé l'utilisation des sols contaminés ?
Oui, à condition de séparer la fonction de régulation de la fonction de mise en œuvre. Or, c'est le ministère de l'Environnement qui est chargé des deux fonctions. Voilà. Le mois prochain sera évoqué un reportage d'Arte diffusé le 5 novembre, intitulé « Eau toxique ». Enfin, aucune coupure signalée à ce jour sur l'alimentation électrique de la centrale de Zaporijjia en Ukraine.
À suivre.
Merci beaucoup oui. à tous les deux. Alors, comme tu le disais en introduction, le vendredi 28 novembre, l'association Les Amis de la Terre a organisé la projection du film Retombée silencieuse. En marge et à la fin de cette projection et de la discussion qui s'en est suivie, j'ai rencontré Kurima Sugita, qui est fondatrice de l'association Nos Voisins Lointains 3.11. Nos Voisins Lointains, c'est très poétique, je trouve. Hein. C'est un titre d'association très, très beau. Alors, cette association a été créée à la suite de la catastrophe de Tchernobyl. Nous allons aborder avec elle tout de suite les problèmes des retombées des deux bombes atomiques états-uniennes qui sont tombées, qui ont explosé sur les populations civiles à Hiroshima et Nagasaki. Et dans un premier temps, on va écouter certains de ces témoignages qui avaient été récupérés par France 3 pour le 60e anniversaire de cette catastrophe.
J'ai regardé le ciel, j'ai aperçu l'avion. J'ai vu un éclair gigantesque, très beau. Je me suis protégé les yeux et la bombe est tombée. J'ai cru qu'elle était rien que sur moi. Je pensais que j'étais morte. J'étais un monstre calciné.
J'ai senti la chaleur de l'explosion, le souffle, les radiations. J'ai été projeté sur plusieurs dizaines de mètres.
Puis j'ai relevé les yeux et je me suis aperçu que les structures, les bâtiments étaient par terre, que tout le monde s'agrippait du mieux qu'il pouvait pour ne pas être envolé.
J'ai été brûlée par les radiations sur toute la jambe. Ici, j'ai des traces de kéloïdes. Ce sont d'énormes cicatrices. Ma peau avait gonflé, elle a commencé à se putréfier et à grouiller de verre. J'ai été opérée des yeux parce qu'ils ne fermaient plus. En tout, 12 opérations.
J'ai perdu mon petit frère 4 jours après, des suites de ses brûlures. Ma mère est décédée 6 ans après d'une leucémie. Ma sœur a eu un cancer du poumon et du foie et souffre encore de ces cicatrices.
Les gens pensaient qu'on allait les contaminer. Ils ne s'approchaient pas de nous. Ils faisaient tout pour nous éviter. Surtout nous, les femmes. Les hommes ne voulaient pas de nous parce qu'ils pensaient que plus tard, on accoucherait d'enfants mal formés et malades. Les victimes et les témoins sont de plus en plus âgés. Il nous faut recueillir leurs témoignages rapidement pour que les plus jeunes sachent ce qui s'est passé.
Nous avons vécu la guerre. J'ai 74 ans maintenant. Je vais bientôt mourir. Je veux qu'ils connaissent notre terrible expérience pour qu'ils construisent, eux, un monde de paix.
On dit que les Américains ont fait de nous des cobayes. Si un jour il y a une guerre nucléaire, personne ne peut ignorer ce qui va se passer pour les victimes.
Alors, c'est vrai qu'il y a ce côté d'expérimentation. Et Américains parlent, par exemple, dans le document, enfin, de l'archive historique, parlent de battle test. Donc, un test, un essai dans le champ de bataille. Donc, c'était clairement une expérimentation pour les Américains. Alors, tout de suite après le bombardement atomique, le gouvernement japonais, à travers le gouvernement suisse, a protesté contre le gouvernement américain en disant que ça viole la convention internationale de la haie qui élimine l'usage de armes qui créent la souffrance superflue. Et l'Américain a refusé tout de suite à reconnaître les effets résiduels de bombes atomiques parce qu'il avait peur que la bombe atomique soit classée comme arme chimique. Donc pour pouvoir continuer à utiliser la bombe atomique, ils ont nié ce dégât qui persiste de radioactivité. Donc le gouvernement japonais, c'était la première et la dernière fois qu'il a protesté contre les Américains. Après, le gouvernement japonais a adopté le discours américain selon lequel, comme la bombe atomique a explosé en haute altitude, les radioactivités ont été dispersées et il n'y a pas des effets sur Terre après les effets directs de l'explosion qui durent seulement une minute.
Madame Kuromi Sugita, quel est l'état d'esprit des citoyens japonais 80 ans après l'explosion des deux bombes nucléaires sur les populations d'Hiroshima et de Nagasaki larguées par l'armée états-unienne?
Alors, ce sont des deux événements qui marquent encore très fortement l'esprit des Japonais. On contraste avec l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi qui entre dans l'oubliette. Et beaucoup de gens pensent que c'est déjà fini. Alors que Hiroshima et Nagasaki, on en parle encore pas mal. Et chaque année, au mois d'août, on commémore ces 12 jours et ça mobilise beaucoup de personnes. C'est transgénérationnel. Vous savez, ça fait déjà 80 ans. Donc même les personnes qui étaient dans le ventre de la mère, qui est considérée comme Hibakusha, la personne a déjà 80 ans. On perd beaucoup de gens. Le chiffre qu'on mentionne très souvent, c'est 220 000 décès jusqu'à la fin de 1945. Et après, il est difficile de suivre. Donc, c'est ce chiffre qui est cité très souvent.
Parce qu'il n'y a pas de statistiques qui ont été faites par les autorités
japonaises ? Non, il y a des suivis par la déclaration des personnes. Donc, il y a la liste de décès qui est renouvelée chaque année à Hiroshima et Nagasaki et qui est commémorée en mois d'août chaque année.
Et est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a encore des personnes qui viennent au monde et qui ont des conséquences ?
C'est la question de deuxième et troisième génération, la question de transgénération. Et il y a certainement des effets, mais on commence l'analyse de génome. Donc on saura plus précisément.
C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas s'il y a des conséquences.
Alors donc, attention, la première génération, souvent la maladie se déclare très tardivement. Ils doivent avoir la pathologie qui sont contenues dans la liste de pathologies. Alors deuxième, troisième génération, il y a des pathologies, oui. Mais souvent, c'est très difficile de revendiquer le lien direct de l'exposition. Mais il y a certainement les maladies que nous considérons comme conséquences de l'exposition et la transgénération.
Il y a des limites, on noie dans la masse.
Dans Hiroshima et Nagasaki, toutes les deux, il y a une zone qui est considérée comme zone d'exposition forte. Et donc les personnes qui étaient dans cette zone sont considérées comme hibakusha. Mais c'est comme ici, la loi française, par les conséquences des essais nucléaires, il faut avoir certaines pathologies reconnues par la loi Morin pour avoir la compensation des reconnaissances. La même chose au Japon. Dans le cas de Hiroshima, il y a ce fameux procès juridique. Ce sont des victimes qui ont été exposées aux retombées radioactives, souvent dans la forme de la pluie noire, mais pas seulement. Ces gens-là n'étaient pas reconnus tout de suite comme victimes. Donc ils ont dû aller à la tribunal pour gagner la reconnaissance. Ils ont gagné la cause 2021 et il y a encore le procès en cours. Et ce n'est pas le cas pour Nagasaki où le procès juridique traîne encore.
C'est-à-dire que la justice est différente à Nagasaki qu'à Hiroshima ?
C'est aberrant, oui. Mais souvent, ces victimes ont fait un long parcours pour pouvoir se dire « Je vais me déclarer comme Hibakusha et je veux être reconnue. » Parce qu'il y a beaucoup de discrimination contre ces personnes victimes de bombes atomiques.
C'est-à-dire qu'ils sont deux fois victimes. Ils sont victimes de la bombe et aussi victimes du regard de la société.
Tout à fait, oui. Oui, donc il y a souvent... le cas le plus typique, c'est pour le mariage. Donc souvent, la famille refuse d'accueillir le mari ou l'épouse originaire de Hiroshima qui ont été exposés de peur d'avoir les enfants mal formés ou malades.
Parce que c'est la stigmatisation,
oui.
Oui. On est malade, on est victime, mais on est deux fois victime.
Oui. Ce que vous avez dit est qualifié double victime. Ce phénomène est revenu et peut-être encore plus radicalement après l'accident de Fukushima. Il y a eu beaucoup de brimades à l'école. Donc les parents se taisent souvent. Ils cachent que la famille est originaire de Fukushima pour que les enfants ne soient pas victimes de discrimination et harcèlement. Oui, c'est incroyable, mais la société japonaise, malheureusement, elle est comme ça.
Madame Koromi Sugita, comment vivez-vous les déclarations faites par Poutine, Trump, Kim Jong-un et certains de nos dirigeants européens?
Non, mais c'est désespérant. On a pensé construire une société, des pays, pour que la paix perdure. Et voilà le résultat. On commence à parler d'usage des armes atomiques. Et très rapidement, enfin, ça a dégradé d'une vitesse incroyable. J'ai entendu parler beaucoup de Hibakusha, donc la première génération. Ça leur brise le cœur. Alors, une des personnes de Hidankyo, qui est venue ici en France d'ailleurs, il a dit dans un interview, dans lequel la question était comment on transmet le témoignage, l'information, etc. Et il a dit, en fait, nous, en tout cas moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la transmission. Ce qui m'intéresse, c'est que vous réfléchissez comment on peut arrêter tout ça.
Et maintenant, une pause musicale, Bura Bura, de et par Colette Mani, pour rester dans la tonalité de ce témoignage.
Bura, 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 bura. Bura, 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 bura. Les survivants d'Hiroshima, on les appelle les Hibakusha, rescapés du picado. Le picado éclaire, boum. Bura, 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 bura. Insère des os et tissus organiques, espérance de vie réduite. Nausée, vertige, bura, 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 bura. Les Hibakusha souffrent d'un mal étrange et difficilement définissable, baptisé bura, bura, la maladie du rien faire. Le ministère de la Santé japonais a été obligé de classer les Hibakusha comme invalides.
au même titre que les leucémiques. Palpitations, troubles de la mémoire. Pure. Dans la ville nouvelle, trop malade pour travailler, pas assez pour mourir. Les nouveaux venus croient le mal atomique contagieux, nous ont privés de bains chauds. Pura, 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 pura. Selon une croyance japonaise, les guirlandes de papier suspendues au plafond peuvent favoriser la guérison des malades. Pura, pura, pura.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Méga, Atomic Max sur Radio Méga, RDOA et Radiola à Dielfi. Bon, c'est pas l'émission musicale qu'on attendait avant les fêtes. Mais bon, voilà, c'est une réalité. Et l'autre réalité, puisqu'on disait que nous avons enregistré Kuromi Sugita après la projection du film Retombée silencieuse, après ce film, notre invité, Dominique Malvaux, qui est aussi le fondateur d'Atomic Mac, a animé la rencontre avec Roland Desbordes. On a ce film, Retombées silencieuses, concerne les retombées des essais américains et anglais dans le Nevada et dans le Pacifique, mais on ne parle pas des retombées françaises. Alors, plus de 2400 essais nucléaires, dont 543 essais atmosphériques, ont été réalisés de 1945 à 1980, essentiellement par les États-Unis, l'Union soviétique, l'Angleterre et la France, n'est-ce pas, Dominique?
En effet, sur l'archipel du Pacifique, alors, essais nucléaires, je vais parler d'abord des essais atmosphériques, ce sont ceux qui ont le plus de conséquences, mais on verra que les autres en ont aussi. Sur l'archipel du Pacifique, pas moins de 46 essais atmosphériques ont été effectués par les États-Unis entre 45 et 60, 1945-1960, l'Angleterre entre 1952 et 1991, et la France entre 1966 et 1974. Avec une puissance totale estimée à 10 mégatonnes de TNT, soit 800 fois la puissance du bombardement de Hiroshima dont on vient de parler. La France, elle, a réalisé 210 explosions nucléaires en Algérie et en Polynésie entre 1960 et 1996. Et là, on a les deux types d'essais. 4 essais atmosphériques à Reghan, dans le sud algérien, entre 1960 et 1961. Et entre 1961 et 1966, 13 essais souterrains dans un massif montagneux à une centaine de kilomètres au nord de Taman Rasset, dans le Sahara. C'est le massif du Hoggar, et qui a fait l'objet d'ailleurs d'un très beau film que je conseille à beaucoup de gens d'aller voir, qui s'appelle At Home, où on voit qu'on enferme des prisonniers lors de la guerre civile des années 90 dans les zones contaminées. En Polynésie, où près de 200 essais nucléaires ont été réalisés, vous l'avez dit tout à l'heure, par l'Angleterre, les USA et la France, de 1975 à 1996, la France a réalisé 46 essais en plein air, atmosphériques donc, et 147 essais souterrains. Les essais souterrains ont été réalisés dans le sous-sol et sous les lagons des atolls de Mururoa et de Fangatofa, faut que je me souvienne de ce nom, des matières radioactives ont été enfouies dans des trous creusés dans les atolls. Mais beaucoup sont friables et pourraient s'effondrer.
Alors ce sont les seules conséquences ?
Eh bien malheureusement non. Toute réalisation d'un essai nucléaire provoque des rebuts classiques, mais aussi des rebuts radioactifs. L'État français a ainsi enterré plusieurs milliers de tonnes de déchets nucléaires dans le sud du Sahara et ne veut toujours pas révéler aux autorités algériennes, ce qui est évidemment un problème pour les populations qui y vivent et qui vivent dans cette partie du monde. Pour la Polynésie, plus de 3500 tonnes de déchets ont été jetées à l'eau et d'autres ont été ensevelies dans des puits creusés pour faire exploser les bombes. Que se passera-t-il si ces entreposages sont submergés par l'océan à cause du changement climatique ? les matières, elles pourraient se répandre dans l'océan, par ce biais rejoindre la chaîne alimentaire via les poissons. Les conséquences environnementales et sanitaires pourraient être dramatiques. L'ANDRA, qui est l'office français qui s'occupe des déchets, ne s'occupe en effet que des déchets stockés sur le territoire français, dans les centres de l'Aube ou à La Hague. Pourtant, entre 1960 et 1966, les déchets des 17 essais nucléaires en Algérie ne sont pas pris en compte ni gérés. Ils ont été laissés à l'abandon, avec tous les problèmes que cela peut poser. Les combustibles usés, hautement radioactifs, générés par la Marine nationale, ça s'ajoute à ces essais parce que la Marine, bah, elle a bien fallu qu'elle fonctionne, ne sont pas non plus comptabilisés par l'ANDRA, tout comme les 15 000 tonnes de matières radioactives jetées dans l'océan Atlantique dans les années 60.
Alors, 1026 personnes ont été reconnues victimes des explosions atomiques réalisées par la France en Afrique du Nord et en Polynésie française entre 1960 et 1996.
Oui, effectivement, mais un peu comme ce qu'on vient d'entendre sur les conséquences de la bombe atomique, des bombes atomiques américaines, c'est un chiffre qui est extrêmement sous-estimé. Il n'y a aucune étude épidémiologique qui a été réalisée sur les populations du sud de l'Algérie, par exemple, mais de nombreux témoignages écrits et de travaux sociologiques témoignent de populations atteintes de maladies radio-induites et de malformations. En Polynésie, on constate une augmentation des cas de cancer depuis 1985 et même 5% par an entre 1995 et 2022. Des interrogations subsistent aussi sur le risque de transmission intergénérationnelle des maladies radio-induites, ce dont parlait Kurimi tout à l'heure également, parce que c'est une vraie inquiétude au Japon, mais dans toutes les îles. Aujourd'hui, beaucoup de Polynésiennes hésitent à devenir mères, aujourd'hui encore, hein. Elles craignent de donner naissance à un enfant qui tombera malade dans 5, 10, 15 ans ou 20 ans, etc. C'est ce que citait il y a très peu de temps une très bonne émission, un très bon article de reporter. Quant à l'assistance aux victimes, au niveau international, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires entre 2021 porte deux articles importants sur l'assistance aux victimes et la réhabilitation de l'environnement.
Alors la France bloque tout ce qui se rapporte à ce traité.
Totalement. En 2023, alors que 171 pays ont voté pour la résolution d'aide aux victimes intitulée « Le lourd héritage des armes nucléaires », seuls 4 l'ont rejeté, devinez lesquels, la Corée du Nord,
la Russie, le Royaume-Uni et la France.
Et la France, voilà. Même les Américains et les Anglais ont accepté, enfin les Anglais non, mais les États-Unis ont accepté, mais pas la France. L'État français ne veut pas reconnaître que les armes nucléaires sont dangereuses pour les populations et l'environnement. Alors pour le moment, et malgré les risques, le gouvernement ne semble pas disposé à mettre fin au nucléaire militaire. Tous les gouvernements, hein, de gauche comme de droite. En dépit de son adhésion en 1992 au traité de non-prolifération des armes nucléaires, la France s'est récemment engagée dans un processus de renouvellement complet de ses bâtiments de guerre nucléaire. Cela va augmenter de manière importante la production de déchets. En 2100, il pourrait représenter un volume de 259 762 mètres cubes. Selon les souhaits du gouvernement, une part importante d'entre eux devrait être stockée au sein du centre d'enfouissement contesté de Cigéo à Bure. Donc on le voit, la lutte qui est menée aujourd'hui par la population de la Marne à Bure ne concerne pas uniquement les déchets civils, mais aussi une grande partie de nos déchets militaires et nucléaires.
Merci Dominique d'être passé à Atomic Mac. Toi, toujours ton rond de serviette à cette émission. Alors, si vous voulez, on y va dans le Sahara. On va écouter un tout petit extrait du film Vent de sable, réalisé par Larbi Ben Chahi. Le sable, c'est bien entendu celui de Reagan dans le Sahara.
Voici maintenant que leur hache est proche. Vous vivez dans le blockhouse de la mise à feu, la minute solennelle de la première explosion atomique française.
On a servi de cobaye, comme les souris dans un laboratoire. La même chose. Le vaisseau tout qui éclatait, dur comme du bois. Alors quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Des cachets. Et on vous bourre avec ça. Et on vous fait passer les douleurs avec ça.
La France a fait du mal ici. Elle dit qu'elle a choisi ce lieu parce qu'il est inhabité. Est-ce que cet endroit est désert? Est-ce qu'ici, il n'y a pas de vent qui transporte la radioactivité jusqu'à nous? Est-ce qu'il n'y a pas de vie ici?
Voilà, après ce petit cliché, ce petit clin d'œil au Sahara et à nos amis sud-algériens, comme tous nos amis algériens d'ailleurs, nous allons écouter la rubrique de Kim.
Bonjour à tous. Je viens de regarder le dernier film en date de la réalisatrice américaine Catherine Bigelow, The House of Dynamite. Le film met en scène une attaque d'un missile nucléaire contre les États-Unis en quasi temps réel et du point de vue du commandement militaire américain. Dans cette chronique, je vous propose de prendre quelques éléments du scénario, d'examiner leur crédibilité et de réfléchir à ce que cela dit de notre rapport à la menace nucléaire. Attention, ce que je vais développer révèle des éléments clés de l'intrigue. Question numéro 1. Est-il possible que les États-Unis ne sachent pas quel pays est derrière le lancement du missile nucléaire ? Déterminer l'origine du tir est un élément clé du scénario, car dans le film, le commandement américain veut riposter. Or, de gros doutes subsistent. S'agit-il de la Corée du Nord, de la Russie, de la Chine ? Si on ne sait pas qui nous tire dessus, sur qui va-t-on riposter ? Le scénario du film explique que si les États-Unis n'arrivent pas à déterminer l'origine du tir, c'est à cause d'un piratage. Ceci semble effectivement le seul cas envisageable. En effet, grâce à leur réseau dense de radars et satellites, il est probable qu'ils arriveraient à déterminer en quelques instants l'origine du tir, y compris s'il provient d'un sous-marin. Question numéro 2. Une bombe nucléaire lancée sur une métropole ferait-elle des millions de victimes ? Dans le film, on annonce un potentiel de 10 millions de victimes, soit l'intégralité des habitantes de l'aire métropolitaine de Chicago. En utilisant le simulateur DarkRider.org, avec la bombe la plus puissante de l'arsenal nord-coréen, 240 kilotonnes, à peu près la même puissance que les bombes françaises et américaines, l'estimation serait de 400 000 décès. Il semble qu'il faudrait donc plutôt une série de missiles pour anéantir totalement une métropole comme Chicago. Question numéro 3. Une puissance nucléaire est-elle vulnérable à une attaque nucléaire ? La réponse est oui. La métaphore utilisée dans le film, selon laquelle il s'agit d'arrêter une balle avec une balle, semble correcte. En cas d'attaque, l'armée américaine utiliserait bien un missile pour arrêter un missile. Le chercheur à Sciences Po Benoît Pélopidas explique bien que la dissuasion nucléaire, autrement dit le fait de posséder l'arme nucléaire, n'est pas une source de protection. Je le cite. Le discours expert et officiel parle communément de la dissuasion nucléaire comme une source de protection. La métaphore abusive du parapluie nucléaire permet de saisir intuitivement pourquoi la dissuasion nucléaire n'offre pas de protection. Même si l'on souhaite qu'il ne pleuve pas, la raison d'être du parapluie consiste à nous maintenir à l'abri de la pluie si elle se mettait à tomber. C'est exactement ce que la politique de dissuasion nucléaire ne peut pas faire. Ce que la dissuasion nucléaire promet, ce sont des représailles, ayant pour effet prévisible des centaines de milliers de morts parmi les civils. Il revient aux chefs de l'État et aux membres de la chaîne de commandement de décider s'ils tiendront ou non cette promesse. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de parapluie nucléaire. Les tentatives de réintroduire de la protection ont consisté à construire des abris anti-atomiques ou une défense anti-missile dont le but ultime est de remplacer la dissuasion. Fin de la citation. Au passage, le public américain a semblé découvrir que, oh mon Dieu, il n'était pas à l'abri de se prendre une bombe atomique sur le coin du nez, venue de la première dictature nord-coréenne venue. Que le débat aille sur ce terrain est obscène, étant donné la politique impérialiste menée par les États-Unis. Ce sont bien eux qui ont commis un crime de guerre resté impuni en bombardant Hiroshima et Nagasaki, qui sont la première puissance nucléaire mondiale et qui font peser leurs menaces sur l'ensemble des autres populations.
Merci, Kim. À la deuxième rubrique de Georges.
Et voilà, nous passons à rubrique à braque.
Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, pour revenir au nucléaire civil et aux centrales locales, c'est-à-dire Cruas et Tricastin, je commence par Cruas. Sur une centrale nucléaire, il existe un grand nombre d'armoires contenant des composants électriques afin de transmettre les informations nécessaires au pilotage des réacteurs et à la maîtrise de la sûreté de nos installations. Certaines de ces informations nécessitent d'être opérationnelles en toutes circonstances, notamment en cas d'aléa sismique. Afin de s'assurer de la conformité des connexions permettant la transmission de ces informations, EDF a décidé de réaliser une campagne de contrôle sur ces armoires dites sensibles.
Quel a été le résultat ?
Et ben, après plus de 55% de contrôles réalisés, soit plusieurs dizaines de milliers de connexions contrôlées, il apparaît que certains borniers étaient mal serrés et certains conducteurs mal insérés. Les contrôles se poursuivent et les remises en état sont faites au fur et à mesure. Ces écarts n'affectent pas la continuité des liaisons électriques en fonctionnement normal, mais seraient potentiellement impactants en cas de séisme. Ainsi, EDF a déclaré à l'Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection le 27 octobre 2025 un événement significatif sur les réacteurs des paliers 900 MW et 1300 MW, événement classé au niveau 0 de l'échelle INES qui en compte 7. Du fait, est-il dit, de la faible potentialité sismique et de la maîtrise de la sûreté des installations dans toutes les situations accidentelles.
N'est-il pas léger de classer cet événement au niveau zéro ?
En effet, la potentialité sismique locale n'est pas négligeable. Et réduire, voire nier tout impact sismique sur des connexions électriques non conformes, c'est nier la dangerosité potentielle qui existe. Autre événement, le 24 novembre 2025, un technicien prépare un bilan des activités effectuées sur l'unité de production numéro 1, dont la visite décennale a débuté le 13 juin 2025. Le réacteur est alors rechargé en combustible, mais il n'est pas encore en production. Lors des contrôles effectués à l'occasion de ce bilan, mettent en évidence qu'un robinet installé le 7 août 2025 sur le circuit RCV. Donc c'est le circuit qui doit être disponible, le circuit de contrôle volumétrique et chimique qui permet d'ajuster les principaux paramètres du circuit primaire qui circule à l'intérieur du cœur du réacteur. C'est donc le cœur du réacteur qui est en cause. Donc ce robinet installé le 7 août 2025 sur le circuit RCV, durant la phase de maintenance de l'arrêt, n'est pas conforme. Il est remplacé dès le 25 novembre, rendant de nouveau disponible l'appoint automatique au circuit primaire.
Donc tout va bien maintenant ?
Eh ben non. Le remplacement du robinet non conforme dans un délai supérieur à 24 heures constitue un non-respect des spécifications techniques d'exploitation, d'où la déclaration le 27 novembre d'un événement de sûreté niveau 1.
Tout ça, c'était pour Cruas. Et à Tricastin, alors ?
Eh bien, à Tricastin, on relève deux événements environnement, un événement de radioprotection, trois événements sûreté le 2-10-2025 sur l'unité de production numéro 3, dont un sur l'ensemble des unités. Et enfin, un événement de sûreté niveau 0 qui, là, concerne toujours le même type de problématique, à savoir le défaut de serrage ou de sous-insertion de cosses de bornier sur les paliers 900 MW et 1300 MW, problème déjà évoqué avec Cruas. Et même traitement, soit niveau 0.
Merci Georges. Eh bien, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur amisdelaterre.org ou sur le blog nosvoisinslointains3.11.home.blog. Et puis, nous rappelons aussi la criirad.org.
Merci à tous les deux. Encore merci beaucoup à Dominique. Alors, toutes les informations, tu les as données. Mais vous pouvez aussi retrouver tout ça sur le site Arrêt du nucléaire Drôme Ardèche au 0805 69 67 58 sdn26-union.org. Pour réaliser Atomic Mac aujourd'hui, il y avait à la programmation musicale, ne pas l'oublier, c'est Jean-Pierre qui assure l'illustration musicale de notre émission, aux interviews et à l'animation de Dominique, Gérard et Georges et Gérard, et Kim, bien entendu, avec son billet toujours très pointu. Merci à Kurumi Sugita et à toi, Dominique Malvaux. Dans nos trucs, on dit c'est Dominique M et Dominique H pour pas vous confondre. Si toutefois ça nous échappe, vous avez le mode d'emploi pour le repérage. Atomic Mac est podcastable consultable sur les sites de radio-mega.com, rdwa.fr et radiola.media. Fidèles auditeurs et auditrices, défendons ensemble nos radios libres, associatives et non commerciales. Nos radios sont en danger. Le Premier ministre veut raboter 44% de nos dotations. Nos radios sont des espaces pour l'expression de nos libertés de parole. Merci à toutes et à tous et on se donne rendez-vous après les fêtes de fin d'année qu'on vous souhaite les meilleurs possibles.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.